Je reviens sur l'avant-dernier verset de ce chapitre. Je vous le déclare, c'est la vérité. Toutes les fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, vous ne l'avez pas fait à moi-même non plus. C'est clair. La parabole du jugement dernier s'inscrit dans la continuité de deux autres paraboles qui se trouvent dans le chapitre précédent, au chapitre 24. Celle des 10 vierges et celle des talents. Comme pour ces deux dernières, il faut y voir un double enseignement. Positif d'abord, négatif ensuite. Sous la forme de deux tableaux juxtaposés, comme dans un diptyque, par exemple. De même qu'un berger désireux de se rendre compte le soir, il ramène tout son troupeau au bercail, met de l'ordre parmi les bêtes, plaçant d'un côté brebis et moutons, et de l'autre boucs et chèvres. De même, le Seigneur, quand il viendra dans toute sa gloire au dernier jour, fera le tri de ses disciples, plaçant à sa droite pour les introduire dans son royaume et à sa gauche pour les exclure du royaume, les maudits. Et quel sera le principe de ce triage ? Le texte que nous venons de lire vous donne la réponse. C'est simplement l'amour. Les bénis du Père, ce sont ceux qui, sur la terre, auront aimé les petits, les prisonniers, les malades, les exclus. Les maudits, ce sont ceux qui auront refusé d'aimer, de se donner. Ils ne s'en sont pas doutés sur le moment. Ils n'ont pas mesuré l'importance de ce devoir d'aimer. Mais ils seront bien obligés de se rendre à l'évidence lorsque, sans rémission possible, ils seront mis, les uns à droite, les autres à gauche, à l'heure où l'ultime jugement interviendra. Si nous voulons comprendre dans son sens véritable cet enseignement capital de notre Seigneur, il convient en priorité de dissiper un malentendu. Beaucoup de personnes, en présence de ce qui nous est dit ici sur l'importance des œuvres de l'amour et sur leur rôle dans le jugement qui s'exercera un jour sur nous, en tirent la conclusion que l'amour est la seule chose qui compte, que la bonté suffit au salut et qu'un incroyant qui fait des bonnes œuvres n'a aucune crainte à avoir puisque ce qu'on fait aux petits, c'est à Jésus lui-même qu'on le fait. Sa charité lui tiendra lieu de foi, et sans avoir besoin de croire, il sera sauvé parce qu'il aura aimé. Je m'avance à affirmer que cette interprétation de la parabole est, je ne dis pas un non-sens, mais proprement un contresens. Le problème de savoir ce que valent devant Dieu les bonnes actions et les vertus de quelqu'un qui ne croit pas en Dieu est certes un grand problème que nous, chrétiens, ne devons pas traiter à la légère et auquel certaines indications éparses de l'Évangile nous font supposer que la justice et l'amour de Jésus donnent une solution plus humaine et plus divine à la fois que l'on est souvent, que ne l'est souvent notre propre interprétation. Mais ce n'est pas ce problème qui est ici en question. Les bénis et les maudits qui évoquent notre parabole, ce ne sont pas tous les hommes, ce sont les croyants. Ce sont les disciples, ce sont les chrétiens, ce sont ceux qui aiment le Christ, qui ont foi en lui, qui l'adorent, qui font partie de son troupeau. Très particulièrement, au moment où il prononce la parabole, Jésus s'adresse à des auditeurs qui vivent dans l'espérance avide de son Messie, de son avènement comme le Messie. À ces êtres en attente, il a dit la parabole des 10 vierges. La véritable attente, c'est l'attente qui veille. Il leur a dit ensuite la parabole des talents. La véritable mesure, c'est celle qui fait valoir les trésors déjà reçus. Il leur dit maintenant, la véritable attente, c'est l'attente qui aime. Vous prétendez avoir foi en moi? Vous m'aimez? Vous contemplez à l'avance avec enthousiasme le triomphe de mon amour? C'est bien. Mais d'ici à ce que mon amour triomphe, vivez dans l'amour. Et pour montrer que vous m'aimez, aimez-moi en la personne des plus humbles. Si vous ne le faites pas, vous vous placerez vous-même inévitablement en dehors de mon royaume. Vous vous attendez à faire partie des bénis du Père? Si vous ne m'aimez pas, vous ferez partie des maudits. Il devient plus clair que replacé ici dans son contexte, la parabole ne s'applique pas à ceux qui vivent en dehors du christianisme, mais à ceux qui font profession d'être chrétiens, et que le Seigneur veut empêcher de s'évader vers le ciel en négligeant les devoirs modestes de la vie ici-bas. Elle vise les âmes qui ont la foi, qui sont promises au salut parce qu'elles aiment le Sauveur, mais qui peuvent perdre ce salut si elles n'aiment pas ce Sauveur pratiquement, directement, en la personne des êtres qui ont le plus besoin d'être aimés. Et par là même, elles nous visent tous, plus ou moins, car il y en a aussi parmi nous, peut-être, qui oublient d'aimer aujourd'hui en pensant au retour glorieux du Seigneur. Il y en a probablement d'autres qui oublient d'aimer dans le concret de la vie quotidienne parce qu'ils ne pensent qu'à rechercher je ne sais quelle communion mystique avec le Seigneur. Il y en a d'autres encore, sans doute, qui oublient pratiquement d'aimer parce qu'ils s'absorbent dans leurs spéculations doctrinales. Il y en a peut-être même qui oublient d'aimer immédiatement tant ils sont possédés par la transformation, par les transformations radicales qu'au nom du Christ, ils voudraient voir intervenir dans la vie sociale. Certes, Jésus ne nous défend pas d'espérer son retour et de vouloir vivre profonde et intime, une communion profonde et intime avec lui, ni de chercher à nourrir au sujet des réalités des pensées justes, ni de souhaiter en son nom une révolution sociale bien nécessaire. Mais si en tout cela nous négligeons d'aimer, nous aurons beau chercher les choses les plus hautes, nous ferons fausse route, car rien n'est saint, rien n'est normal dans la vie chrétienne sans amour. Ceci dit, pour comprendre la signification essentielle de la parabole essayons de regarder d'un peu plus près ce à quoi je faisais allusion quand j'évoquais les deux tableaux côte à côte. D'abord, la partie lumineuse, celle de droite, celle où apparaît la bénédiction donnée à ceux des disciples du Maître qui ont aimé. Jésus ne les approuve pas seulement d'avoir aimé, il leur dit sa reconnaissance de ce qu'en aimant les humbles, ils l'ont lui-même aimé. Ce que vous avez fait à l'un des plus petits d'entre vous, d'entre vos frères, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Vous voulez m'aimer? Aimez-les. Vous voulez faire quelque chose pour moi? Faites-le pour eux. Quand vous faites quelque chose pour eux, même si ce n'est pas en pensant expressément à moi que vous le faites, c'est pour moi que vous le faites quand même. Car ils sont mes frères, ils sont moi, je suis eux, et les aimer, c'est m'aimer. Il faudrait des pages et des pages pour énumérer les membres de cette cohorte qui de tout temps ont été les témoins, les héros de cet amour pour Dieu en la personne des petits, des humbles, des misérables. C'est cet amour que Jésus nous demande, un amour qui ne remplace pas la foi, certes, ni qui en est le fruit normal, le fruit nécessaire, le fruit obligatoire, le signe nécessaire de la foi. Ceux qui se donnent ainsi, se donnent gratuitement, sans espoir de récompense, par pur amour. Mais au dernier jour, leur amour aura la récompense, sa récompense, quand le Seigneur, à la stupéfaction peut-être, leur dira « Ce que tu as fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi-même que tu l'as fait. » Il nous faut maintenant passer au deuxième tableau du diptyque, celui de gauche. Ceux qui ont aimé le Seigneur en la personne des humbles seront les bénis du Père, nous le rappelons. Mais ceux qui prétendent aimer le Seigneur n'auront pas aimé les humbles, seront maudits. Ce côté sombre de la parabole ne saute pas toujours aux yeux. Il est moins enchanteur que l'autre. Mais il est dans la parabole. Il est peut-être même, à tout prendre, l'enseignement essentiel, le plus aigu. Excusez-moi.